Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Pivot, sélection du Reader's Digest et To Go. Au programme, au collège Maisonneuve, l'administration met en demeure des étudiants et étudiantes qui la critiquent. 11 vérités insolites sur la neige. Le cœur adore les avocats. Et première historique au Mexique, une femme élue à la tête de la Cour suprême. Bonne écoute.
Au Collège Maisonneuve, l'administration met en demeure des étudiants et étudiantes qui la critiquent. Un texte de Léa Beaulieu-Krachanov, paru le 13 février 2023 dans le magazine Pivot. L'association étudiante a reçu une mise en demeure après avoir dénoncé l'indifférence de l'administration à l'égard du bien-être des élèves. Lors d'une journée porte ouverte au Collège Maisonneuve, l'association étudiante a distribué des tracts dénonçant l'inaction de l'administration à l'égard de nombreux enjeux. Comportement raciste du personnel, manque d'accommodement en santé mentale, climat toxique qui pousserait des employés à démissionner, etc. En guise de réponse, l'administration a fait parvenir aux représentants et représentantes étudiants, étudiantes, une mise en demeure exigeant le retrait et la destruction des documents. L'association y voit une atteinte à ses droits syndicaux. Après avoir longtemps tenté de se faire entendre, sans succès, les membres de la Société générale des étudiantes et étudiants du Collège de Maisonneuve, SOG et ECOM, en ont eu assez. Ça faisait plusieurs mois que l'association présentait une liste grandissante de griefs au conseil d'administration du cégep du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Lors d'une soirée porte ouverte, tenue le 31 janvier dernier, des membres de la SOGEECOM ont distribué des tracts faisant état de leurs insatisfactions à l'égard d'une administration décrite comme passive, détournée du bien-être des étudiants et même toxique. On y décrit des enjeux d'importance, comme des propos racistes, tenus par certains membres du personnel, la fermeture controversée du café étudiant, le refus d'approuver des annulations de cours et des incomplets pour raisons médicales, ou encore la fermeture aléatoire d'aires communes face auxquelles l'administration semble faire la sourde oreille. Plus généralement, on décrit une atmosphère toxique au sein de l'administration qui serait à l'origine d'un manque important de personnel. On ressentait que, dans notre rôle de syndicat, qui est de défendre les intérêts des membres, on avait besoin d'informer les gens des réalités qui ne sont pas adressées par l'administration, affirme Amélie, une membre du conseil exécutif de la SOGECOM, qui préfère garder l'anonymat en entrevue avec Pivot. La distribution des tracts aux futurs étudiants-étudiantes est le moyen qu'a trouvé l'association de se faire entendre et de montrer le vrai visage de l'administration. Dès les premiers dépliants distribués, des membres du personnel administratif auraient défendu aux étudiants et étudiantes de circuler avec des tracts parmi les visiteurs et visiteuses. Un directeur aurait aussi menacé une étudiante en évoquant des recours juridiques. Le 6 février dernier, la SOGEECOM a reçu une mise en demeure signée par une avocate du collège. On y invoque la violation de règlements internes ainsi que la diffusion de propos diffamatoires et préjudiciables à la réputation du collège. On nous accuse d'agir de manière néfaste au bien-être de l'institution, mais le vrai danger, selon nous, c'est l'administration qui ignore perpétuellement les besoins des étudiants. Amélie, membre du conseil exécutif de la SOGEECOM. Poursuivons avec au Collège Maisonneuve, l'administration met en demeure des étudiants et étudiantes qui la critiquent. Un texte de Léa Beaulieu-Krachanov, paru le 13 février 2023 dans le magazine Pivot. La direction y intime l'association étudiante de ne plus distribuer ou utiliser les tracts, ainsi que de retirer ceux qui sont affichés entre les murs du collège, y compris dans le local de l'association et même en ligne. Elle demande la destruction des documents encore en la possession de l'association. Elle exige également le respect des règlements qui régissent la diffusion publique et les conditions de vie au collège, sans quoi des sanctions pourraient être appliquées. Enfin, elle demande des excuses de la part de la SOGEECOM qui avait 48 heures pour se plier aux attentes de la direction. Lors d'une assemblée générale tenue le 7 février, l'association a déclaré la mise en demeure illégitime et a choisi de ne pas se plier aux exigences qui y sont formulées par l'administration du collège. Ça s'inscrit dans un pattern de comportement antisyndical qui brime notre liberté d'expression, rétorque la porte-parole de l'association étudiante. Elle rappelle que l'application d'une telle politique empêcherait la SOGEECOM de critiquer l'administration du collège et donc de réaliser son mandat. La distribution de tracts politiques est un moyen d'expression protégé, souligne-t-elle. On nous accuse d'agir de manière néfaste au bien-être de l'institution, mais le vrai danger, selon nous, c'est l'administration qui ignore perpétuellement les besoins des étudiants. Ça s'inscrit dans un pattern de comportement antisyndical qui brime notre liberté d'expression. Amélie. L'administration du collège a refusé de commenter la situation. Elle soutient cependant qu'elle prend tous les moyens pour leur offrir un environnement harmonieux, sécuritaire et stimulant, et se fait un devoir de traiter tous les étudiants de façon équitable, en harmonie avec les politiques et règlements internes du collège. Des griefs négligés. On a vraiment l'impression de faire face à une administration qui démontre un manque de souci particulier pour le bien-être étudiant, s'inquiète Amélie. L'administration aurait refusé aux étudiants et étudiantes le droit de faire annuler un cours ou d'obtenir un statut incomplet, même lorsqu'une justification médicale est présentée. Elle affirme que des médecins ont parfois tenté de communiquer directement avec la direction, sans succès. L'association critique aussi l'inaction de la direction lors de la fermeture du café étudiant du collège, qui constituait, selon elle, un point de rencontre important pour les étudiants et étudiantes et une source d'accès à de la nourriture abordable sur le campus. Peu de temps après la fermeture, un contrat d'exclusivité aurait été signé avec la cafétéria menant à une hausse des prix. Ça démontre un souci plus axé sur les profits que sur l'offre de produits abordables et d'espaces de vie aux étudiants, s'indigne Amélie. Racisme et manque de transparence. Parmi les enjeux cités par le SOGEECOM, on retrouve des comportements racistes du personnel contre lesquels des plaintes auraient été déposées auprès de l'administration sans l'entremise de l'association étudiante. Ce genre d'incident ne serait pas rare chez le personnel qui travaille actuellement à la cafétéria, selon Amélie. On aurait refusé de servir des étudiants étudiantes qui souhaitaient être servis selon les normes halal et des employés auraient tenu des propos racistes à leur endroit. L'association déplore le manque de transparence quant au statut de ses plaintes et ignore si des mesures disciplinaires ont été mises de l'avant. On a vraiment l'impression de faire face à une administration qui démontre un manque de soucis particuliers pour le bien-être étudiant. Amélie, membre du conseil exécutif de la SOGEECOM. L'administration n'explique pas aux étudiants que c'est le rôle de la SOGEECOM de les défendre, souligne Amélie. Il traite ses plaintes à l'interne. On ne se fait pas inclure dans le processus. On ne se fait pas impliquer en tant que syndicat. Un problème de gestion. De manière plus générale, la SOGEECOM dénonce une culture toxique au sein de l'administration qui contribuerait à créer une pénurie de main-d'œuvre parmi le personnel scolaire et de soutien. Une soixantaine de postes seraient actuellement vacants au Collège Maisonneuve. selon l'association. Des employés auraient quitté leur poste au collège afin d'intégrer des emplois semblables avec un salaire comparable dans d'autres institutions. Amélie note qu'il existerait un manque particulièrement flagrant de professionnels qui fournissent des soutiens psychologiques ou de l'aide en adaptation scolaire, par exemple. Le temps d'attente est tellement long que ça peut prendre plusieurs mois avant d'avoir l'autorisation pour des moyens d'adaptation scolaire. Ça fait qu'un étudiant qui est en mi-session n'a toujours pas accès à des moyens d'adaptation auxquels il a pourtant droit. C'était, au Collège Maisonneuve, l'administration met en demeure des étudiants-étudiantes qui la critiquent, un texte de Léa Beaulieu-Kratchanov, paru le 13 février 2023 dans le magazine Pivot.
Vérité insolite sur la neige. Un texte de Claire Novak, paru le 16 novembre 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest. Existe-t-il deux flocons de neige identiques? Indispensables pour pratiquer les sports d'hiver ou réaliser un bonhomme de neige, la neige a également son lot d'histoires à raconter. Première vérité. La neige n'est pas vraiment blanche. La neige est plutôt transparente. Les flocons sont constitués de cristaux de glace et la lumière qui les traverse rebondit sur chacun d'eux. Il se produit alors une réflexion du spectre lumineux qui renvoie les couleurs dans toutes les directions, ce qui produit la couleur blanche. Ainsi, le fameux Noël blanc traditionnel est fictif, mais tellement plus magique qu'un Noël translucide. Deuxième vérité. Des flocons à 6 branches. Il y a une raison scientifique à cette forme. Les molécules d'eau qui composent les flocons ne s'amalgament qu'entre cristaux de glace hexaèdres à 6 côtés. Pour demeurer fidèle à la réalité, n'achetez donc pas de décorations et d'ornements qui présentent des flocons à 5 ou à 8 rayons. Troisième vérité. La neige bannie par décret. L'hiver a été particulièrement rude à Syracuse, New York, en 1991-1992. Il est tombé plus de 4 mètres de neige sur la ville, ce qui a poussé le conseil municipal à déclarer toute neige supplémentaire jusqu'à Noël illégale au nom des citoyens épuisés par le climat. Mère Nature n'a cependant pas suivi le mot d'ordre, car il a neigé 2 jours plus tard, et la quantité de neige a dépassé celle de l'hiver précédent. Quatrième vérité. Des flocons identiques. Le microscope permet de révéler des trésors. En 1988, Nancy Knight, chercheuse scientifique du Centre national en recherche atmosphérique du Colorado, a repéré 2 flocons parfaitement identiques provenant d'une tempête dans le Wisconsin. Pensez-y à 2 fois avant de dire à une personne qu'elle est aussi unique qu'un flocon de neige. Cinquième vérité. Source de phobie? Il existe une peur morbide de la neige qui s'appelle la chionophobie. Sixième vérité. Un flocon géant. Le flocon le plus imposant jamais enregistré mesurait 38 cm sur 20 cm de hauteur. On l'aurait observé à Fort Keogh, Montana, en janvier 1887. Malgré l'absence de preuves concrètes, les scientifiques corroborent totalement le fait. Septième vérité. Un record pour l'Italie. Le village de Capracotta, dans le sud de l'Italie, détient le record de la quantité de neige tombée dans une journée. On aurait mesuré 2,5 mètres de neige dans un délai d'une journée et demie en mars 2015. C'est une moyenne de 13 cm à l'heure. Huitième vérité. En croissance au Canada, le continent américain compte en moyenne 105 tempêtes de neige par hiver. Le nombre de blizzards aurait cependant doublé dans les 20 dernières années. Il y en aurait eu 9 par année entre 1960 et 1994 et 19 depuis 1995. Les chercheurs soupçonnent un lien possible avec une accalmie des taches solaires. Neuvième vérité, sous forme de tempête. Au-delà de l'aspect inquiétant qu'inspire le mot « blizzard » par rapport à celui de « tempête de neige », la différence repose sur la force des vents et le niveau de visibilité. Selon le service météorologique américain, un blizzard doit combiner d'abondantes quantités de neige et des vents de plus de 40 km/h avec une visibilité inférieure à 0,25 km. Dixième vérité. Source d'eau douce. Autour de 75% de l'eau douce terrestre se présente sous forme de neige ou de glace, incluant les glaciers. Il recouvre 10% de la surface totale de la planète. Onzième vérité. Pour un bonhomme géant. Le record Guinness du plus grand bonhomme de neige au monde a été remis à une dame de Bethel, Maine, qui a réalisé en un mois un bonhomme de près de 37 mètres de hauteur. C'était 11 vérités insolites sur la neige, un texte de Claire Novak, paru le 16 novembre 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest.
Le cœur adore les avocats. Un texte de l'Institut de cardiologie de Montréal paru le 14 février 2023 dans Togo. Est-ce que manger de l'avocat contribue à la prévention des maladies cardiovasculaires? L'Observatoire de la prévention nous parle des bienfaits de ce fruit bien particulier et de son empreinte écologique. L'avocat, un fruit rempli de bon gras. L'avocat se distingue des autres fruits en raison de sa teneur exceptionnellement élevée en gras insaturé. Une moitié d'avocat contient presque autant de gras monoinsaturé qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge. Cette richesse en gras insaturé est très intéressante car de nombreuses études ont montré que la consommation régulière d'aliments contenant ces gras, l'huile d'olive et les noix en particulier, est associée à une diminution marquée du risque d'accident cardiovasculaire. Un effet positif similaire des avocats sur la santé cardiovasculaire est suggéré par une étude récente réalisée auprès de plus de 100 000 personnes qui ont été suivies sur une période de 30 ans. L'équipe de recherche a noté que, comparativement aux personnes qui ne mangent jamais ou très rarement des avocats, celles qui en consomment de façon régulière ont un risque de maladie coronarienne, obstruction des artères qui irrigue le cœur, moindre de 16 % une portion par semaine et de 21 % deux portions ou plus par semaine. L'étude conclut que le simple fait de remplacer des aliments riches en gras saturés, beurre, fromage, charcuterie, par une quantité équivalente d'avocats permettrait de réduire d'environ 20 % le risque de maladies cardiovasculaires. Popularité en hausse des avocats. Au cours des dernières années, la consommation d'avocats a bondi de façon spectaculaire et on prévoit qu'il deviendra prochainement le deuxième fruit tropical le plus commercialisé à l'échelle mondiale, tout juste derrière les bananes. À la lumière des effets positifs de ces fruits sur la santé cardiovasculaire, on pourrait se réjouir de cette nouvelle tendance si ce n'était de son impact sur l'environnement. En effet, cette forte demande pour les avocats crée évidemment de fortes pressions sur les systèmes de production du fruit et amène notamment de la déforestation pour l'implantation de nouvelles cultures et une demande accrue en eau. Bien qu'elle soit non négligeable, l'empreinte hydrique, la quantité d'eau requise pour la production de l'avocat, est beaucoup plus faible que celle de l'ensemble des produits d'origine animale, en particulier la viande de bœuf, de même que celle associée à la production de plusieurs aliments couramment consommés, comme le café, le chocolat et même l'huile d'olive. L'empreinte carbone des avocats, les émissions de gaz à effet de serre générées par leur production, est également comparable à celle des autres fruits et nettement inférieure à celle des aliments d'origine animale. En résumé, manger de l'avocat chaque semaine est un excellent choix pour la santé de notre cœur. Et lorsqu'on utilise des sources végétales comme l'avocat ou l'huile d'olive, par exemple, pour remplacer le gras de source animale, c'est doublement avantageux pour nous et pour la planète. C'était « Le cœur adore les avocats » de l'Institut de cardiologie de Montréal, paru le 14 février 2023 dans Togo.
Première historique au Mexique, une femme élue à la tête de la Cour suprême. Un texte de Mélina Nantel, paru le 6 janvier 2023 dans le magazine Pivot. L'élection de l'avocate progressiste Norma Lucia Piña, qui sera désormais présidente du plus haut tribunal du pays, brise un plafond de verre. Le 2 janvier dernier, la Cour suprême du Mexique a élu sa nouvelle présidente, Norma Lucia Piña. Alors qu'aucune femme n'avait occupé ce poste jusqu'alors, son élection marque un tournant historique pour le pays ainsi que pour l'avancée des droits des femmes. Élue par 16 des 11 magistrats et magistrates, laissant en deuxième position le magistrat Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucia Piña siégera à la présidence de la Cour suprême du Mexique. Elle devient ainsi la toute première femme à obtenir ce poste. Après avoir remercié ses collègues de la Cour suprême, Norma Lucia Piña a affirmé sa détermination à briser ce qui semblait être un plafond de verre inaccessible. En tant que première femme à présider cette plus haute cour, je représente toutes les femmes. Je remercie ceux et celles qui y ont toujours cru, ceux et celles qui ne se sont pas lassés de se battre contre notre culture patriarcale, a-t-elle déclaré sous les applaudissements. Nous nous efforcerons chaque jour de créer une société plus juste, plus égalitaire, sans violence pour les femmes. Bien qu'au cours des 4 dernières décennies, le Mexique a compté 227 juges féminines, celles-ci ne représentent que 40% des chefs de juridiction. Et dans les plus hautes sphères, les inégalités sont davantage marquées. À l'heure actuelle, des 11 magistrats-magistrates, seuls 4 sont des femmes. L'élection de lundi dernier place dorénavant 2 d'entre elles dans des postes de présidence. Alors que Piña présidera le tribunal, la juriste Yasmine Esquivel-Mossa sera quant à elle à la tête d'une des chambres. En tant que première femme à présider cette plus haute cour, je représente toutes les femmes. Je remercie ceux et celles qui y ont toujours cru, ceux et celles qui ne se sont pas lassées de se battre contre notre culture patriarcale. Norma Lucia Piña. Des positions résolument progressistes. Connue pour ses positions notamment en faveur de l'avortement et de la non-militarisation, L'avocate de 63 ans promet un souffle nouveau au sein du pouvoir judiciaire du Mexique. Avec près de 34 ans de carrière juridique, Norma Lucia Piña a mené des études en droit à l'Université nationale autonome du Mexique, UNAM, où elle a obtenu son doctorat. Elle a enseigné quelques années avant d'entamer sa carrière au sein du pouvoir judiciaire, où elle gravit rapidement les échelons, d'abord comme secrétaire d'études et de comptabilité, puis comme juge. En tant que magistrate à la Cour suprême depuis 2015, ses votes ont été décisifs à plusieurs reprises. En 2022, elle votait en faveur du mariage homosexuel et pour le droit à l'identité de genre pour les enfants et adolescents-adolescentes trans. Elle a également fait plusieurs déclarations en faveur de l'avortement et a souligné le danger de la militarisation pour les personnes LGBTQ+. Avec son arrivée à la tête du plus haut tribunal du pays, elle s'engage à lutter contre la corruption et souhaite mettre en place des mécanismes au sein de la police nationale pour éviter les discriminations faites aux femmes. Elle entend notamment renforcer la tolérance zéro en ce qui a trait aux violences sexuelles. L'élection historique de Piña, une première en 200 ans d'histoire pour la Cour suprême du Mexique, promet un vent de changement. Dans un pays avec une immense dette de justice envers ses femmes, le tribunal le plus important du Mexique va être dirigé par l'une d'entre elles, peut-on lire dans le périodique hispanophone El País. C'était Premier historique au Mexique, une femme élue à la tête de la Cour suprême, un texte de Mélina Nantel, paru le 6 janvier 2023 dans le magazine Pivot.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, Robert Chartier et Justine Langevin à la lecture, Diane Métaillé à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.